Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
Alors, la réduflation, hein, c'est-à-dire que vous payez, bon, peut-être le même prix, mais vous avez moins de quantité de produits plus petits. En France, on appelle ça de la shrinkflation. On appelle pas ça de la réduflation, de la shrinkflation. Ça me fait rire, les Français, souvent, hein, c'est, ils disent mail, alors que les Québécois, on a dit courriel. On a inventé le mot courriel. Alors là, les Français, souvent, sont plus anglophones que nous autres. Donc, divulgachage, hein, qu'on a inventé aussi au Québec. Bref, la shrinkflation, donc la réduflation. On va en parler avec Mme Maryse Côté-Hamel, professeure en sciences de la consommation à l'Université Laval. Bonjour, Mme Côté-Hamel.
Bonjour.
Bonjour. C'est pas nouveau, ça, j'imagine. C'est qu'on s'en rend compte que les entreprises font ça, par exemple, les sacs de chips où il y a moins de chips qu'avant. Mais j'imagine que, bon, ça date pas d'hier, ça, cette chose-là.
Effectivement, on a commencé à observer, on pourrait dire, mais au début des années 1970, là, c'est un phénomène qui a commencé à prendre de l'ampleur, mais il reste que c'est un phénomène qui prend davantage d'ampleur dans les périodes de difficultés économiques ou de forte inflation comme on vit actuellement, parce que c'est une période où les grandes entreprises voient une augmentation de leurs coûts et ils veulent pas refiler 100% de la facture aux consommateurs, c'est-à-dire qu'ils veulent pas augmenter là, significativement les prix. Donc, ils sont à la recherche d'autres stratégies et la réduflation, voire même la décaliflation, qui est le fait de réduire la qualité des ingrédients, sont des stratégies qui peuvent être utilisées soit seules ou en combinaison avec une hausse de coûts.
Mais Madame Maryse Côté-Hamel, quand il y a de l'inflation, tout le monde se serre la ceinture. On se serre tous la ceinture. Les consommateurs, on consomme moins, puis tout ça, puis on coupe dans nos dépenses. On a l'impression que les entreprises, elles, non, veulent garder le même montant de profit qu'avant. Fait qu'ils se disent, comment on peut faire pour pas voir notre profit baisser? Ah oui, donc, il va y avoir moins de produits dans les sacs, par exemple, ou tout ça. Comment ça fait qu'eux autres aussi, ils se serrent pas la ceinture un peu en disant, pour les prochaines années, nous autres ici, on va boire la tasse un peu, puis on va voir nos profits baisser.
Bien, c'est sûr que les entreprises ont pour objectif de faire du profit. Faut pas se le cacher, les entreprises voient aussi une augmentation de leurs coûts. T'sais, on le sait, la main-d'œuvre est plus difficile, donc il faut payer un petit peu plus cher. Le transport avec tout le pétrole, ça coûte, c'est dispendieux. Les ingrédients aussi, avec toutes les difficultés politiques un peu partout sur la planète, ça affecte également le prix des ingrédients, tout comme les difficultés climatiques ou la crise climatique qui va affecter les récoltes, entre autres. Donc, c'est sûr qu'ils ont des coûts plus élevés, qu'ils doivent, d'une certaine façon, possiblement en absorber une partie, mais aussi tenter de faire leurs frais. C'est pour cette raison-là là, qu'ils doivent malheureusement là, augmenter les coûts.
Écoutez, je disais le texte de Julien McEvoy, là, puis aussi le reportage de Radio-Canada, là. On dit le garde-manger, il passe au complet. Les fromages, la viande froide, les charcuteries, les céréales, le granola, le griot, les biscuits sucrés, les craquelins, les chocolats, les croustilles, les friandises, alouettes, ils font tous de la réduflation.
Tout à fait. En fait, tout ce qui concerne l'alimentation, mais aussi ce qui est pas de l'alimentation, on en voit aussi dans le domaine des services. Si on se rappelle, il y a 10-15 ans, on trouvait des petits échantillons là, dans les chambres d'hôtel de shampoing ou de savon ou autre. C'est plus dur à trouver maintenant parce que c'est une façon aussi pour eux de réduire leurs coûts. Si on garde l'exemple des hôtels, jadis, il y avait une femme de ménage quelqu'un qui venait faire le ménage chaque jour, alors que là, on nous encourage à réutiliser nos serviettes. Le ménage, c'est souvent juste à la fin moment du départ, à moins qu'on reste très longtemps. Donc, c'est toutes des façons aussi de réduire les coûts, diminuer les heures d'ouverture des commerces. Des fois, on voit des restaurants qui sont fermés le lundi, le mardi, par exemple. Donc, c'est une façon pour eux de réduire leurs coûts pour justement être capable de rester compétitif.
Et les restaurants aussi, il me semble que les restaurants, on en a moins dans notre assiette. Là. C'est le retour à la nouvelle cuisine. Je sais pas si vous vous souvenez, les années 80, là, ça coûtait très cher, puis on avait un petit légume dans une assiette, puis un petit peu de sauce. Là. C'était à peu près ça. On dirait que c'est le retour à ça.
Oui, ben c'est une façon. C'est sûr qu'il y en a qui vont passer ça autrement en disant bon ben c'est une façon d'avoir des portions plus santé, moins caloriques. Logiquement, ça on le voit aussi avec des barres de chocolat là qui disent une nouvelle version seulement 100 calories. Ben la seule chose qu'on fait c'est réduire la quantité de la barre de chocolat. Donc logiquement ça réduit aussi le nombre de calories. Mais oui, on voit ça effectivement en restauration. Les assiettes sont plus petites. Souvent les menus sont plus réduits. Il y a moins de choix parce qu'on sait plus il y a de choix, plus il y a des risques de perte aussi. Et il y a des ingrédients également là qui est un peu trop dispendieux, par exemple un champignon là un peu recherché ben peut être remplacé par un champignon peut-être un petit peu plus courant justement pour garder les prix plus accessibles.
Et justement à un moment donné, je suis allé dans un restaurant puis on a demandé c'est un plat de sauce et on voulait la sauce à, je me souviens pas si c'était un champignon ou quoi, une herbe quelconque et ils sont arrivés avec le plat, on l'a goûté puis non c'est pas ce qu'on a demandé. Oui, c'est parce que l'ingrédient que vous vouliez, on l'a plus maintenant, ça c'est peut-être trop cher, tu sais, indiquez-le dans votre menu, là. Et c'est ça l'affaire. On parlait tantôt à Yves Daou, puis il dit Yves Daou, en France, ils vont bientôt indiquer là, sur les produits, la quantité de produits est moindre que ce que vous êtes habitué d'acheter habituellement. Donc, on dirait que en Europe, on protège davantage ou on informe davantage les consommateurs qu'ici au Canada.
Mais c'est sûr qu'effectivement, en Europe, ils sont quand même assez proactifs. Ils ont, entre autres, sur un sujet connexe, là, ils ont introduit la possibilité d'avoir une partie de la facture payée, entre autres, quand on fait des réparations de vêtements ou de chaussures. Ça, c'est une nouvelle chose qui a été mise en place qui aide aussi les consommateurs. Donc, on voit qu'ils ont quand même là, plusieurs mesures pour aider les consommateurs, desquelles on pourrait possiblement s'inspirer. Mais si on garde l'exemple de l'affichage, la grande difficulté avec l'affichage du fait que le produit a été réduit en volume, c'est que pas mal toutes les marques le font maintenant. Donc, essentiellement, il devrait avoir une étiquette sur quasiment tous les produits qu'on peut trouver en magasin parce qu'on sait que la grande difficulté, c'est d'être le premier. Mais une fois qu'il y a une entreprise qui le fait, par exemple, dans les biscuits au chocolat, ben les autres compétiteurs risquent très rapidement là, de eux aussi diminuer leur volume. Et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué.
Et là, moi, la question que je me pose, la question que tout le monde se pose, c'est que bon, là, on est dans une période d'inflation, donc on va dire, on va mettre moins de biscuits au chocolat dans la boîte de biscuits au chocolat, mais l'inflation, à un moment donné, elle va se résorber, on va revenir à quelque chose de plus normal. Est-ce qu'ils autres vont continuer avec leur boîte avec moins de biscuits de chocolat ou ils vont revenir avec autant de biscuits de chocolat qu'avant la période d'inflation? Question quiz.
Je doute qu'ils reviennent à ce que c'était avant, mais normalement, ce qu'on observe, c'est que dans les périodes de forte inflation, ça diminue. Puis après ça, quand l'inflation là, devient plus stable, ils ont moins intérêt à diminuer les quantités. Donc, on peut penser que les quantités qu'on voit actuellement risquent de rester possiblement les mêmes. C'est sûr qu'on risque d'avoir d'autres périodes de forte inflation dans le futur, donc la réduflation pourrait revenir à la charge. Mais il y a quand même une limite aussi à ce qu'on peut diminuer en termes de volume parce que de un, les consommateurs s'en rendent compte. Et aussi, pour les entreprises, c'est beaucoup de coûts parce que de changer le format des emballages, de changer, dans le fond, toute leur chaîne de production, c'est sûr que ça entraîne des coûts de leur côté. Donc, ils n'ont pas intérêt à faire ça trop souvent. Donc, ce qu'on observe, c'est vraiment là, dans les périodes où est-ce qu'ils n'ont pas le choix, ils vont le faire. Mais sinon, c'est une stratégie qui est peut-être un peu moins utilisée normalement.
Cela dit, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir en période d'inflation. Effectivement, ça coûte plus cher pour ces grosses entreprises-là, Donc, c'est soit on paye plus cher notre produit, soit on le paye pas plus cher, mais on a moins de produits. Qu'est-ce qui est mieux, selon vous, pour le consommateur?
En fait, pour le consommateur, c'est sûr que peu importe la stratégie utilisée, on est un peu perdant là, parce qu'on en a moins pour notre argent. La décaliflation, le fait de réduire la qualité des produits est absolument pas mieux. Au contraire, je dirais dans une certaine mesure, c'est possiblement pire, à moins de faire des changements d'ingrédients qui restent bons pour la santé. Donc, par exemple, si on enlève les canneberges dans un biscuit puis qu'on les remplace dans les raisins secs, ben ça demeure un ingrédient qui est bon pour la santé et plus abordable. Mais la plupart du temps, ce qu'on observe, c'est pas ça. Plus d'eau, plus de sel, plus de produits chimiques, et c'est là que c'est absolument pas positif pour le consommateur d'un point de vue nutritif. Donc, malheureusement, C'est sûr que le consommateur demeure perdant, mais on espère justement que ça va se stabiliser pour que le consommateur puisse avoir un petit peu plus de pouvoir aussi, parce que là, on se retrouve un peu à la merci des entreprises, mais normalement, dans des périodes où est-ce qu'il y a une plus grande prospérité économique, les consommateurs ont plus de sous à dépenser et ils peuvent davantage dicter les pratiques des entreprises là en votant avec leur argent d'une certaine façon.
Merci beaucoup. La shrink fashion, comme disent les Français. Alors, Maryse Côté-Hamel, professeure en sciences de la consommation à l'Université Laval. C'est très intéressant. Merci. Bonne journée.
Merci. Bonjour. Au revoir.